Aujourd'hui dans l'entretien Confluence, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Lopez, qui est l'auteur du livre « Dépêche Mode, Book and Face and Devotion ».
Sur Dépêche Mode, c'est vrai que je me sers de cette fibre littéraire qui m'anime pour la mettre au service de l'histoire du groupe. Je ne voulais pas faire un que sais-je sur Dépêche Mode parce que tout a été dit sur eux et quelqu'un qui veut connaître l'histoire du groupe, il va sur Internet et il trouve pléthore d'informations. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de compiler tout ça dans un livre, entre guillemets, une bio classique, comme il en existe d'ailleurs une très, très bien, écrite par Sébastien Michaud. Donc moi, ce que j'ai voulu vraiment mêler des ressentis plus personnels sur mon histoire, enfin mon vécu avec ce groupe, me questionner sur le rapport d'une fan à un groupe aussi au sens large, et donc Dépêche Mode là en l'occurrence. Et peut-être que la particularité aussi de ce Book of Faith and Devotion, c'est que comme le titre l'indique, la foi est vraiment au cœur du titre et au cœur du sujet, parce que c'est, voilà, j'ai vraiment cherché à percer les valeurs de Dépêche Mode, ce qui anime le groupe. Voilà, donc la foi notamment, côté blues.
Et alors, une double question un petit peu, c'est alors comment vous avez rencontré justement Dépêche Mode, comment vous êtes arrivé à découvrir ce groupe-là, et puis comment vous est venue après cette idée d'écrire un livre, alors justement quoi.
Alors ouais, ça se passe sur l'échelle presque d'une vie, la question que vous me posez. Parce que j'ai rencontré Dépêche Mode toute jeunette en allant les voir en concert à la Halle Tony Garnier en 1990. C'était l'époque de la tournée Violator. Et là, ça a été une date marquante parce que c'était déjà un premier coup de foudre musical parce que c'était mon premier concert en plus. Donc je démarrais assez fort avec Dépêche Mode quand même. Ça mettait la barre assez haut musicalement. Et puis c'était aussi la rencontre pour moi ce soir-là avec celui qui allait devenir mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui et qui m'accompagne dans le bouquin à Basildon où on est allé faire un reportage sur la ville où se sont rencontrés les membres de Dépêche Mode. Voilà, une ville d'Angleterre assez sinistre, vous pouvez me dire.
Et alors, après ce premier concert, vous avez continué du coup à voilà, vous plonger un peu dans ce qu'ils avaient fait avant et à les suivre sur les années 90.
Ouais,
comment ça s'est passé un petit peu?
J'ai vraiment grandi avec Dépêche Mode. Je fais partie de ces... C'est un groupe qui, non seulement j'ai grandi avec, mais j'ai envie de dire, c'est un groupe qui m'a fait grandir aussi, de par les messages qui distillent dans leurs chansons. Et puis, c'est un groupe qui a toujours su aller de l'avant, qui a toujours su se remettre en question, qui s'est jamais endormi sur ses lauriers, alors que beaucoup de groupes, de grands groupes mastodontes des années 80 l'ont fait. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà. Je trouve que Dépêche Mode est l'un des rares groupes blockbusters des années 80, New Wave, etc., à avoir passé avec panache le cap des années 90, puis des années 2000, et ils sont toujours là aujourd'hui, et avec un album qui tient sacrément la route, quoi. Ouais.
Et alors, pour en revenir justement donc à l'écriture de ce livre, donc quelques années plus tard, vous décidez, voilà, en étant toujours passionné de Dépêche Mode, en travaillant aussi dans la critique musicale, de faire un roman, du coup un livre, mi-bio, mi-roman, où vous racontez cette relation-là d'une femme avec le groupe et un petit peu de l'évolution aussi du groupe.
Oui, voilà, c'est ça. Ça mélange vraiment deux parcours, quoi. Un parcours avec des ressentis personnels. Et puis, en fait, c'était l'idée de mettre mon histoire au service de ma modeste histoire au service de celle de Dépêche Mode. Voilà, pour les servir avec ce que je savais faire professionnellement, c'est-à-dire parler de musique. C'est peut-être l'originalité de ce bouquin, justement, voilà, c'était de... Non, c'est pas un roman du tout, parce que je m'en tiens qu'à des faits, je raconte... Il n'y a pas de fiction du tout, mais c'est un livre qui mélange un peu le road trip, parce que je me suis déplacée dans les studios où ils ont... J'ai été visiter les studios où ils ont enregistré leur premier disque à Londres, voilà, on a été à Basildon avec mon ami Frody dans le bouquin, et puis ensuite, je les ai suivis un petit peu sur la tournée Delta Machine, là, l'année dernière. Donc, tout ça en fait un espèce de maelstrom assez atypique, je pense, dans le genre livres musicaux. Et voilà, c'est un livre, en tout cas, qui vient du fond des tripes, pour moi. C'est le récit de trajectoire, d'enquête, de hasard, qui se déroule au fil d'un long chemin de foi. Voilà.
Et ça pouvait être que Dépêche Mode, quoi. Cette idée-là, c'était vraiment lié à, quand même au groupe, ou vous auriez pu le faire avec, je sais pas, d'autres groupes que vous avez pu aimer.
Je crois que pour aller jusqu'à Basil Don et donner un an de sa vie comme ça, j'ai envie de dire d'investissement et d'énergie pure, parce que c'est un livre que j'ai porté, vraiment du fond des tripes 9 mois durant, en étant complètement immergée dans le projet, en faisant, c'était presque un sacerdoce parce que j'ai rien fait d'autre quasiment. Ça a été une monomanie pendant une petite année. Je pense qu'il y avait que Dépêche Mode il y a un an pour me porter, enfin pour me donner. Enfin, qui me nourrissait suffisamment pour que je donne autant à ce groupe. Voilà. Après, aujourd'hui, le projet a été pour moi concluant dans ce que ça m'a apporté, dans ce que je suis, de ce que j'ai envie de continuer à explorer dans la musique et dans l'écriture. Et du coup, c'est vrai que je suis partie pour continuer à écrire sur des groupes de manière peut-être différente, mais j'ai envie de continuer à servir la musique et des musiciens au travers de livres, vraiment.
Et alors, un petit mot sur l'éditeur. Alors, comment ça s'est passé un petit peu avec, Naïve Livre ? Vous leur avez proposé le projet dès le début. Comment ça s'est un petit peu
imbriqué ? Alors, là encore, il fallait une bonne dose de foi, parce que ce livre était à la base destiné à un autre éditeur. Au dernier moment, il y a eu un petit volte-face nécessaire qui m'a contraint à chercher un autre éditeur à 2 mois de la parution prévue chez un autre que Naïve, donc. Et bien heureusement, pour la happy end de cette aventure, Naïve a tout de suite réagi quand il a reçu mon manuscrit, Monsieur Naïve, Madame Naïve d'ailleurs, parce que c'est une directrice, Françoise Crouse, qui s'occupe de Naïve Livre, qui a dit, attendez, Dépêche Mode chez Naïve, ce serait très très pertinent, dans la mesure où Naïve est un label de musique et qu'il distribue aussi les disques de Mute, qui était le label historique de Dépêche Mode aujourd'hui. Donc voilà, il y avait une pertinence pour eux. Ils sont fans aussi du groupe. Donc voilà.
Et alors, le livre est sorti quand? Du coup, on n'a même pas donné un petit peu les...
Il est sorti, il est tout frais. Là, il est sorti il y a un mois à peu près. Il est...
Donc les auditeurs peuvent se le procurer dans les librairies musicales.
Partout, il est en vente, comme on dit, dans toutes les bonnes crèmeries. Ouais.
Et alors, ce qui vous amène aussi aujourd'hui, donc c'est la présentation de ce livre, mais c'est aussi du coup une soirée un peu particulière à Musicalam.
Tout à fait, on organise un petit happening autour du Book of Faith and Devotion le 17 avril, avec donc mon compagnon de route, Frody, qui viendra m'accompagner pour raconter un peu des souvenirs de Basil Don. Et puis, on va aussi faire une petite session musicale avec des reprises acoustiques de Dépêche Mode, avec un guitariste qui s'appelle Franck Allison, qui est complètement à contre-courant des sons synthétiques de Dépêche Mode, et je trouve ça intéressant parce qu'il vient plus d'un univers folk. Donc l'idée, c'est de
mêler les genres un petit peu.
Voilà, d'être là où on ne nous attend pas forcément.
Et alors, est-ce que vous les aviez interviewés? Alors, on va... Voilà, le premier concert à une quinzaine d'années et tout ça, vous avez continué à les suivre. Vous aviez, avant ce livre-là, vous aviez déjà pu les rencontrer, faire des interviews?
C'est étonnant parce qu'en fait, j'ai eu plus de facilité à interviewer Andrew Fletcher, un des membres du groupe, avant d'écrire ce livre. Je me suis aperçue qu'il était plus facile d'approcher les groupes quand on se présente pour un média, pour un simple journal, par exemple, que pour un travail d'investigation à long terme comme un livre. Ouais. Ouais,
c'est... Parce que ça les angoisse un petit peu, il y a peut-être quelque chose...
Parce que c'est le show business et que ce n'est pas le groupe qui décide au final à qui ils vont accorder des interviews ou ne pas en accorder. Ça, c'est tous les gens qui les managent autour qui décident à leur place.
Ouais. Alors, pour les auditeurs, on peut peut-être, vous pouvez peut-être nous faire une petite lecture. Hein. On peut en faire deux. On peut commencer à un petit passage du livre. On reparlera ensuite de tout ça et puis on pourra redonner un petit passage aussi à la fin.
Alors, je vais prendre un extrait au début du livre. Alors, ça fera un préambule aux lectures du 17 avril. Basil Don, ancienne ville nouvelle, paumée à l'est de Londres, morne banlieue de Brick et de Breeze, où le gris semble être la norme et l'ennui, mais énorme. Mais que diable foutons-nous dans cette plate bourgade alors qu'on rêvait de Cornouailles, de falaises vertigineuses, de landes ondulées, de pierres néolithiques, de collines pelées? Mais quel graal pourrions-nous quêter dans cette insipide cité? Ici, nulle légende de chevalier, nulle lyonnaise engloutie, pas de ruines de Tintagel, pas plus de chance de romancer l'étreinte d'Arthur et Guenièvre que de fabuler sur quelques amants éternels. Alors, quel mythe venons-nous chercher dans cette ville sans âme? Quel drôle de point de départ pour quelle fabuleuse histoire? La réponse est peut-être contenue dans les paroles de « Walking in my shoes ». Frody et moi sommes à Basildon pour marcher dans les premiers pas de Dépêche Mode, pour démarrer ce livre là où tout a commencé. Putain, faut-il qu'on aime ce groupe, sans compter pour nous retrouver à claquer toutes nos RTT dans ce trou, le pire trou du comté. Basildon, Essex, c'est quand même 180 000 habitants, mais zéro vie nocturne et un seul hôtel, un campanile largué au bord de l'A127 à 2 km du centre-ville, un nom qui n'apparaît nulle part dans le Lonely Planet ou dans le guide du routard, bref, le dernier endroit d'Angleterre où l'on se piquerait d'aller faire du tourisme. Pourtant, Basildon est une place capitale quelque part, et même plutôt forte en capitale si l'on considère que c'est ici que se niche aujourd'hui la Bourse de Paris. Peu de gens le savent, mais sous ses airs de City of Nowhere, Basildon abrite ni plus ni moins le cœur du système économique mondial, le nerf de la guerre. Tapis dans un hangar informatique, un sarcophage coffré de murs en béton armé renferme en effet la principale plateforme boursière de la planète. Ce gigantesque data center fournit les algorithmes moteurs du trading électronique, des maths barbares revêtus de vrais noms de guerre, Shark, Guerrilla, Dagger. La réalité du système financier semble presque dépasser la science-fiction militaire. Qu'elle semble loin à l'époque où le secret le mieux gardé de Basildon n'était autre que les quatre kids qui couvaient gentiment Torah, Torah, Torah sur les bancs de l'école Saint-Nicolas. Aujourd'hui, les trésors underground sont plutôt classés secrets défense, enfouis dans un bunker que le livre Crack Machine décrit comme une centrale atomique. Et oui, par les temps qui courent, la ville veille à ce que sa nouvelle star ne fasse pas trop de bruit, surtout pas de boom. Pour une bonne Java à la mode, mieux vaut compter sur photographique que sur les algorithmes.
Alors, bel extrait, du coup, on voit aussi là-dedans qu'il y a à la fois une certaine poésie aussi que vous avez voulu un petit peu mêler à ce retour sur Dépêche Mode et aussi des remarques sur un peu la société. Enfin, il y a pas mal de choses en fait, on ressent comme ça en quelques mots. Que dans ce livre, il n'y a pas que Dépêche Mode non plus, quoi.
Non, il n'y a pas que Dépêche Mode. Dépêche Mode, c'est quand même le sujet phare, bien évidemment. C'est marqué sur la couverture là-dessus. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais ça permet de... Enfin, Dépêche Mode ayant traversé trois décennies, ayant vécu un pied sur deux continents, ça permet d'ouvrir le propos à plein de sujets aussi qui ont trait à la société, au rapport...
à l'évolution aussi.
Oui, au rapport des gens avec la musique, l'industrie de la musique. Parce que Dépêche Mode, c'est aussi une énorme marque commerciale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que derrière trois individus qui sont bien sympathiques et plutôt doués dans ce qu'ils font, bah, y a tout ce mastodonte, cette panzer là, qui est une marque commerciale, ni plus ni moins. Donc, c'est aussi un livre qui se confronte à cet aspect... aux aspects plus, on va dire, triviaux du show business. Ça permet de... Donc, Dépêche Mode permet d'aborder pas mal de sujets de société, des sujets aussi philosophiques.
Et puis, ils arrivent à un moment quand même charnière de l'histoire aussi, parce que c'est la fin des années 70, notamment en Angleterre. C'est Thatcher qui arrive au pouvoir. C'est une société qui est en pleine mutation. Et du coup, ils vont aussi accompagner... un petit peu tout ce qui va se passer pendant une trentaine d'années à la fois au Royaume-Uni et dans le monde d'une manière plus générale.
Oui, complètement. Vous avez raison de dire que c'est un groupe qui n'est pas un groupe punk, mais qui a vraiment poussé, quand ils ont grandi, eux, sur les terres du punk, vraiment. Et d'ailleurs, ils ont été très inspirés par les Clash. Dave Gahan ne le cache pas, d'ailleurs, quand il parle des groupes qui l'ont inspiré, notamment pour... pour l'énergie qui peut envoyer sur scène. Donc c'est philosophiquement, enfin dans leur approche de la musique, il y a vraiment ce côté do it yourself. Donc même si c'est pas un groupe punk, ils ont été marqués par l'esprit du punk en fait.
Et alors du coup, pour revenir au début, donc eux ils viennent, ils se sont rencontrés vraiment dans cette ville, alors tout gamin quoi.
C'est ça, ouais, ils étaient ados, ils étaient au collège à l'époque quand ils se sont rencontrés. Ils ont balbutié dans différents groupes qui n'ont pas passé, eux, le cap du lycée. Et leur premier concert a eu lieu dans l'école Saint-Nicolas de Basildon. Enfin, ils se sont vraiment rencontrés dans cette ville qui permet... C'est très instructif d'aller à Basildon parce que ça permet de comprendre d'où ils viennent et de quoi ils se sont sortis. C'est un groupe qui est vraiment autodidacte, quoi. Ils viennent tous d'un milieu extrêmement modeste, la classe prolétaire, ouvrière, en pleine dans les années, au seuil des années Thatcher. Donc, ça rend leur parcours
pas facile,
non, ça rend leur parcours encore plus admirable quand on voit d'où ils sont sortis, quoi, vraiment.
Et après, alors du coup, quel est le moment du déclic en fait? Ils partent à Londres et comment ça s'est passé un petit peu vraiment?
Par palier, c'est-à-dire que voilà, effectivement, le premier pas c'était Londres parce que c'était vraiment la porte à côté, c'est à une demi-heure de train plutôt. Et donc c'est Daniel Miller, donc du label Mute, qui les a signés, qui les a repérés, c'est le papa de Depeche Mode, c'est lui qui les a fait à la base et qui les a donc tout de suite drivés dans les meilleurs studios à Londres à l'époque en les mettant en contact avec Gareth Jones, leur premier producteur. Et puis de fil en aiguille, donc ils ont vécu assez longtemps à Londres, tous. Andrew Fletcher habite toujours à Londres aujourd'hui. Et puis, au fil des albums, Martin Gore, Dave Gahan ont déménagé, ils habitent aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est vrai que les enregistrements des albums, au fil du temps, se sont vraiment éparpillés sur plusieurs continents. Il y a eu évidemment l'Angleterre, les États-Unis, mais ils ont enregistré Violator au Danemark, Music for the Masses à Paris. Voilà. La prochaine fois, on les attend sur Brume, dans les studios du Fort Saint-Irénée.
Et alors vous, en tant que fan du groupe, du coup, qu'est-ce qui vous a touché en premier? C'est l'énergie sur scène, c'est la musique, c'est les textes? Comment un petit peu vous êtes tombé dedans? Et qu'est-ce qui vous a accroché? Et qu'est-ce qui vous a fait garder le contact comme ça, permanent, avec ce band, quoi?
Bah, c'est tout ça à la fois. Et puis, c'était un grand partage. À l'époque où on était ados, Depeche Mode, ça représentait aussi une forme de communauté. Il y avait quelque chose d'identitaire dans la New Wave en général. Donc, c'était le creuset dans les booms. C'était un groupe fédérateur d'une bande d'amis, etc. Donc, pour moi, c'est aussi lié à des valeurs d'amitié, de partage, de fête et puis d'amour de la musique, évidemment. Et voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ces textes qui ont des messages à la fois simples mais extrêmement profonds sur des histoires de rédemption, de souffrance, et des textes assez sombres, mais surtout des textes, je trouve, vachement élévateurs, quoi, qui tirent les gens vers le haut. Et ça, c'est noble, je trouve, de la part de Depeche Mode.
Et alors, pour revenir un petit peu à l'écriture du livre, donc vous avez commencé un peu les investigations justement en Angleterre, et comment ça s'est passé après? Vous avez continué dans d'autres coins, vous les avez rencontrés, et ensuite un gros temps d'écriture, ou ça a été par moment? Comment ça s'est passé cette année un petit peu de travail, justement, vous nous disiez un peu avec les tripes, quoi?
Ouais. Bah, en fait, le livre raconte ça un peu au jour le jour, ce parcours. Par moment, ça prend même la forme d'un journal en fonction des portes qui pouvaient s'ouvrir ou se fermer au fil des pérégrinations et des avancées dans mes enquêtes. Donc, j'entretiens même un peu un suspense avec tout ça. Donc, je ne veux pas en révéler forcément les tenants et les aboutissants. Mais voilà, le livre joue là-dessus aussi. Je m'en suis servi même de matériaux d'écriture de ces incertitudes, de quelles portes vont s'ouvrir, qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui ne va pas être possible, etc.
Ok, d'accord. Et ben, du coup, on va rappeler un petit peu alors, donc, la date à Musicalam.
Jeudi 17 avril, à partir de, on va dire, à 19h30, voilà.
Alors, on rappelle le titre, donc, Book of Faith and Devotion, qu'on trouve dans tous les bons libraires, chez tous les bons libraires. Et puis, je sais pas, on peut peut-être lire un autre petit passage, histoire d'allécher un petit peu, alors court pour pas dévoiler le cœur du livre, mais ça peut être sympa de se quitter sur ces... sur un petit bout, un petit peu de...
Ah, vous me prenez au dépourvu.
On n'est pas obligé.
Je peux ouvrir une page au hasard et on peut faire ça. On peut faire le coup de la page au hasard.
Ouais, ça peut être très bien, quoi.
Voilà. c'est pas facile. Mais allez. Ça tombe sur une chanson qui s'appelle New Dress à la fin de l'album Black Celebration. L'air de causer et chiffon futile, l'album se conclut curieusement sur deux chansons qui arborent les mots dress et dressed. Mais lorsqu'on déshabille le texte, on entend clairement le songwriter, Martin Gore, qui veut en découdre avec les inégalités du monde, nanti d'une aiguille qui va percer droit dans l'abcès des excès. Ainsi, New Dress fait référence au kyriel de nouvelles robes que s'achetait la princesse Diana pendant qu'une partie des sujets crevait la dalle dans les recoins sinistrés du royaume. La chanson fut d'ailleurs censurée un temps en Angleterre, les critiques de la famille royale n'y étant pas légales. Pour autant, la garde-robe princière n'est jamais sur New Dress qu'une manière insolente de parler d'autres dérives politico-médiatiques, en pointant notamment les méfaits d'une information constamment déformée. En dénonçant l'effet loupe des journaux télévisés, Martin engage l'auditeur à regarder plus loin, voire à reprendre le monde en main. Ainsi, l'album se conclut sur une belle logique d'espoir et New Dress, l'air de causer fanfreluche monarchique, s'avère en fait une ode au pouvoir démocratique. You can't change the world, but you can change the facts. And when you change the facts, you change points of view. If you change points of view, you may change a vote. And when you change a vote, you may change the world.
Ok, et eh ben merci beaucoup en tout cas Stéphanie Lopez
merci
de nous avoir
accompagnés
sur cette fin de journée. On approche des 19h, on vous laisse avec un morceau de musique et puis on se retrouvera très bientôt, j'espère, sur les ondes.
À bientôt.